Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir le professeur Henri Bourguina qui vient de faire paraître aux éditions Maxima en duo avec Éric Brice son nouvel ouvrage « Marché de dupes, pourquoi la crise se prolonge ». Monsieur le professeur, bonjour.
Bonjour Jean-Louis Chambon.
Ravi de vous retrouver sur notre antenne, sur laquelle nous avions largement commenté votre précédente parution, qui, d'ailleurs que vous aviez aussi faite en duo avec Éric Brice, « L'arrogance de la finance » qui était parue à la Découverte en 2009. On avait déjà pu remarquer votre parler vrai et votre intervention avait passionné nos éditeurs. Alors vous récidivez aujourd'hui avec cette nouvelle parution, toujours sans langue de bois, et en vous plaçant quelquefois d'ailleurs à contre-courant par rapport, on va dire, nombre d'observateurs. Pour vous et Éric Brice, la crise n'est donc pas finie, et au cœur de votre thèse, il y a les marchés financiers et les banquiers qui n'ont pas vraiment changé. Vous dites précisément, lentement mais sûrement, la finance revient aux bonnes vieilles mauvaises habitudes. Alors, avant d'entrer dans le cœur du sujet, je rappelle en quelques mots votre parcours, même si nos auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes donc professeur émérite à l'Université de Bordeaux 4. Vous êtes un auteur confirmé. Vous avez eu de très nombreux prix, dont notamment le prix Turgot du meilleur livre d'économie financière dès 1995 pour La tyrannie des marchés chez Economica. Vous êtes un économiste très écouté et vous avez été reçu et audité à plusieurs reprises par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, tout récemment, vous avez récidivé. Et vous avez, tout au long de vos parutions, mis en garde contre les risques que pouvait représenter le système financier. Alors, quant à votre co-auteur, Éric Brice, il est cofondateur de Cyberlibris, entreprise française pionnière du livre numérique et des bibliothèques numériques. Il est professeur associé d'économie et de finance au CEREGMIA de l'Université des Antilles et de la Guyane. Il a travaillé plusieurs années, notamment, je ne sais pas si c'est une référence, mais en tout cas chez Lehman Brothers et Merrill Lynch. Et donc, après avoir été professeur de finance à HEC pendant 10 ans, ce qui est une référence là, pour le coup. Donc, première question, vous dites que, très exactement d'ailleurs, plus ça change, moins ça change. Alors, est-ce qu'on est véritablement devant un risque de recrise, comme vous le dites à un moment donné ?
Oui, merci de votre présentation qui est presque trop aimable.
Je vous en prie.
Voudrais dire que bon, nous publions ce second livre, après donc l'arrogance de la finance, livre dans lequel nous montrions que finalement, et il y avait évidemment dans la prise de risque beaucoup d'excès du côté du secteur financier, notamment en particulier des banquiers, et nous avions montré aussi que la théorie financière elle-même n'était pas exempte de quelques reproches, sans pour autant que l'on doivent jeter la théorie avec l'eau de la finance, si je puis dire. Cette fois, évidemment, c'est un peu différent, et je crois effectivement que leitmotiv que l'on entend souvent prononcer, du business as usual, c'est-à-dire du retour aux affaires courantes, aux bonnes vieilles habitudes, ce retour n'est pas, évidemment, à exclure, il est confirmé, même si, n'allons pas trop loin, même s'il y a quelques adaptations ici ou là, je pense que les principaux problèmes de la finance ne sont pas encore résolus. Et ma crainte, c'est que malgré ce qui est fait aujourd'hui, par exemple, avec la loi de réforme, la loi Dodd-Frank aux États-Unis, avec la loi de réforme financière, ce qui est préparé à Bruxelles, ce qui est aussi mitonné bien lentement à Genève avec Bâle III, tout cela ne change pas fondamentalement la nature des problèmes. Il y a encore beaucoup de scories dans ce système et je pense qu'il en est aussi de nouvelles.
Par exemple ?
Par exemple, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe depuis le printemps dernier, vous le savez, sur la dette souveraine de ces pays que les commentateurs anglo-saxons ont nommés de façon bien peu aimable les pigs. Oui. Ces pays de l'Europe périphérique, en quelque sorte, et principalement de l'Europe du Sud, qui voient leur dette souveraine contestée par quelques hedge funds et quelques banques d'affaires, notamment américaines. Vous savez sans doute que le Temps de Genève, le journal très sérieux, je ne vois, a révélé que c'était en janvier 2010 une réunion de hedge funds importants à Londres et d'une banque d'affaires américaine qui avait certainement été à la base d'une décision collective d'attaque de la dette grecque. Donc il y a un nouveau problème qui est, je crois, évidemment posé, qui n'existait pas encore il y a 2 ans, qui tient au fait que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, cette hantise du triple A domine un peu tous les États, chaque gouvernement veut complaire au marché, et par conséquent, il y a, oui, il faut bien le dire, dès à présent, une restriction de la souveraineté économique de ces États.
Effectivement, pour aller plus loin, beaucoup de commissions se réunissent, beaucoup de grands décideurs se voient. Pour vous, donc, quels seraient les axes principaux d'une évolution de cette gouvernance mondiale qui, semble-t-il, n'a pas encore vu le jour ?
Écoutez, je pense que, si vous êtes d'accord, nous mettrons un peu de côté et nous le réserverons pour un peu plus tard la question d'échange, mais je pense qu'il y a effectivement à réformer la gouvernance et beaucoup trop de mesures qui ont été envisagées ont été sans doute intéressantes, mais elles ont été présentées comme des pas décisifs. Or, elles ne le sont pas. Je reprends l'expression d'Adair Turner, vous savez, qui est le président de la FSA, c'est-à-dire l'organisme de surveillance des banques britanniques, qui les qualifie de diversions populistes.
Oui.
Diversions populistes, il y en a beaucoup. Il y en a déjà une au niveau du problème du bonus des traders. Bien sûr, ces bonus faisaient question et on peut être favorable à leur réglementation qui a été faite sur la base de l'accord entre Brown et donc le président Sarkozy. On peut aussi considérer que le problème des paradis fiscaux devait être un jour ou l'autre abordé. Mais ne nous faisons pas d'illusions, tout cela, ce sont, oui, je crois, pour une bonne part, des diversions populistes. J'en donnerai un exemple, si vous voulez, en ce qui concerne les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, vous savez qu'on a institué ce régime de la communication, de l'engagement de communiquer des renseignements par les administrations fiscales national, et on en a fait dépendre l'inscription des différentes places ou des différents pays sur des listes qui sont alternativement soit noires dans le cas le plus défavorable, soit grises, intermédiaires, soit blanches. Et si on regarde un peu ce qui s'est passé, eh bien il s'est passé que finalement il n'y a plus aujourd'hui aucun pays sur la liste noire, d'où cette conclusion pour le moins un peu hâtive, il n'y a plus de paradis fiscaux.
Oui.
Je peux vous rassurer, ces paradis fiscaux ils continuent à exister, ils sont même, j'allais dire, encore en bonne santé. Je signale que pour passer du vice, c'est-à-dire de la liste noire à la vertu, la liste blanche, il fallait simplement exciper de 12 accords entre places ou entre pays de communication des renseignements fiscaux. Or, je prends un simple exemple parmi beaucoup d'autres, celui de Monaco. Monaco a signé assez vite ces 12 accords, mais il les a signés avec des pays qui disent, dont l'énumération dit déjà tout, ils ont signé avec des pays comme Bahreïn, comme la Principauté d'Andorre, comme le Liechtenstein. Donc vous voyez que tout cela ressemble un peu à une manipulation. Donc ce ne sont que des exemples. Je crois que si l'on voulait aller plus loin, il faudrait serrer d'abord au plus près les causes principales de la crise financière qui a débuté en août 2007. Il faudrait serrer ces causes et ensuite faire correspondre à ces causes des remèdes, et des remèdes qui s'imposeraient.
Oui, alors vous avez un développement très remarqué sur les risques dans un paragraphe que vous appelez casino ou dancing. Vous dites que l'histoire des incendies de dancing suit toujours le même canevas, l'issue est fatale, je saute quelques pages, les sorties de secours ne fonctionnent vraiment que lorsqu'on n'en a pas besoin, en revanche, elles ne remplissent plus leur office dès que l'alerte au feu est lancée et que la panique fait rage. Et là, précisément, vous dites vos doutes sur cette théorie de Markowitz sur la diversification de portefeuille.
Oui, je crois que la diversification de portefeuille dans le modèle correspondant, c'est une théorie intéressante. Comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas jeter entièrement cet apport, mais c'est une théorie qui a été érigée un peu en dogme, si vous voulez.
Et qui a été écornée par la conjoncture.
Elle est écornée par la conjoncture, et je crois que déjà il y a quelques années, je pense à un auteur qui s'appelle Cochrane et qui écrivait dès 2005, ce modèle est fondé sur des hypothèses qui sont des hypothèses héroïques. On dirait que la société est constituée simplement d'un ensemble de retraités qui surfent sur des stocks de titres ou des stocks de richesses et qu'il n'y a pas donc à côté d'autres groupes sociaux, qu'il n'y a pas la production, qu'il n'y a pas la compétitivité, qu'il n'y a pas aussi des institutions. Or, ces institutions, nous l'avons vu dans le cas du déclenchement de la crise, sont absolument majeures. Si, par exemple, la crise de 2007 s'est développée, c'est parce que ce fameux modèle sur lequel on débouchait avec le modèle de portefeuille, ce business model, comme on dit, ce modèle d'opération, c'est un modèle qui conduit donc à générer et à transférer. Originate and distribute. Donc on transfère le risque en le découpant, si vous voulez, en grains ou en tranches de plus en plus fines. Seulement le problème, c'est que l'on perd la traçabilité de ce risque, on l'a bien vu. Et d'autre part, une bonne partie de ce risque, eh bien, il n'est pas transféré en réalité. Il reste, dans le périmètre financier, il reste en particulier dans ces relations qui ont été l'une des origines profondes de la crise, entre les fameux véhicules, entre les fameux conduits qui étaient constitués en marge des banques et qui donnaient lieu à des réseaux inextricables de commissions qui étaient répliquées à l'infini. Donc, le modèle de portefeuille a des limites et si on veut le perfectionner, il faut réintégrer les institutions.
Et les investisseurs eux-mêmes.
Et les investisseurs eux-mêmes.
Vous dites d'ailleurs en page 199, pour caricaturer, les investisseurs sont le risque eux-mêmes, ils sont leurs meilleurs ennemis. Dans les périodes calmes, ils s'ignorent les uns et les autres, dans le sens où ils ne se préoccupent pas de l'impact qu'aura leur comportement sur celui des autres, mais dans une période turbulente, à l'instar de l'incendie dans le dancing, la débâcle appelle la débâcle. C'est très clair.
Oui, c'est un peu l'ambivalence fondamentale de la spéculation. J'allais dire que pour un théoricien, il ne s'agit pas de prohiber la spéculation. La spéculation, il en faut. Il en faut, mais il n'en faut point trop. Et il arrive des moments où cette spéculation prend le pas sur tout le reste. On le voit sur les marchés financiers, on le voit aussi ailleurs, on le voit sur les marchés à terme, par exemple, de matières premières ou de produits vivriers. Le physique ici, finalement, est périodiquement débordé par le papier. Et donc, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à tous les excès, à tous les débordements.
Oui, alors, marché de dupes, vous dites donc, et dans ce marché de dupes, le Nord a perdu une partie de son âme.
Oui, je crois que cette présentation et qui est reprise dans le titre du livre lui-même est à considérer de façon assez extensive. Il y a bien sûr le marché, il y a bien sûr duperie du côté des marchés financiers ou tout au moins dans de nombreuses opérations que l'on rencontre dans ces marchés. Il y a quelqu'un qui, j'allais dire, paie la note finale. Lorsque, notamment dans certains pays comme le Royaume-Uni, comme l'Allemagne même, comme les États-Unis, les États sont venus à la rescousse par des subventions considérables au marché et notamment aux banques ou aux assurances d'ailleurs, je pense à IG dans le cas des États-Unis, eh bien, il a bien fallu que quelqu'un règle la note. Et qu'est-ce qui a réglé la note? Ce sont les trésors, les finances publiques et au-delà des trésors, ce sont les contribuables. Donc ici, il y a un marché des dupes. Mais ce que j'ai voulu, et nous avons voulu étendre un peu cette optique de tromperie, si vous voulez, de certains mécanismes qui sont présentés comme n'ayant que des avantages. Alors, ici, sur le plan du commerce international, bien sûr que la spécialisation internationale, que la concurrence internationale est un moteur de la croissance. Mais attention, nous avons aussi du prix. Par exemple, si nous faisons le bilan des relations entre le Nord et le Sud en ce qui concerne l'emploi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe et qui continue à se passer à grande échelle aujourd'hui? On profite, bien entendu, du -10 ans en matière de prix des productions que ces pays exportent vers l'Europe et vers l'ensemble des pays développés. Mais la contrepartie, et c'est là où il y a du prix, c'est qu'on subit une déflation salariale qui est extrêmement forte et on accepte, si vous voulez, de perdre des emplois.
Et donc on continue de préférer le consommateur au salarié.
Voilà, et je crois que pour répondre à ce que vous nous disiez sur les réformes de fond, je crois que tôt ou tard, je le répète, il faudra quand même réfléchir à cela. D'ailleurs, on voit qu'on y vient, mais on y vient par le biais du change. Mais le change, les taux de change, bien sûr, sont des éléments aggravants. Mais au fond de la question aujourd'hui du déséquilibre entre le Nord et le Sud, et au fond du problème du basculement, notamment vers l'Asie, il y a autre chose. Il y a cette duperie, oui, qui tient à libre-échange, à tout va, a sans doute des avantages qui sont évidents, mais qui a aussi des contreparties. Et il faut donc peut-être aborder, il faut faire entendre peut-être une autre petite musique à propos de la théorie de l'échange international. C'est ce que nous avons tenté d'esquisser dans un des chapitres terminaux de notre livre.
Tout à fait, donc sur lequel vous venez sur des propositions, nous allons y venir. Je voudrais quand même profiter du plaisir de vous avoir donc sur notre antenne pour vous faire dire quelques mots sur ce qui pourrait être une guerre future, celle des monnaies.
Oui, je pense que la question des monnaies, c'est une question latente. C'est une question qui est souterraine et qui perdure depuis déjà plusieurs années, pratiquement depuis une décennie. Et il y a bien sûr une façon de poser le problème en le réduisant à cette espèce de poker menteur qui se manifeste entre les États-Unis et la Chine, bien sûr. Le yuan n'est pas assez réévalué. Les Chinois disent qu'ils sont prêts à le réévaluer, mais qu'ils le réévalueront bien sûr demain. C'est la théorie de Mao Tse-tung. Il faut évidemment, pour franchir le gué, avancer son pied de caillou en caillou. Donc les États-Unis tardent et tarderont de plus en plus. Et évidemment, le dollar, lui, pour des raisons d'ailleurs intérieures, a perdu, vous le savez, fortement
de sa
toute puissance et surtout de sa valeur en tant que cours. Mais le dindon de la farce,
c'est l'euro. Bien sûr.
Et donc, il faut bien entendu réformer le système monétaire international et le marché d'échange. Mais attention, c'est une tâche colossale. N'oublions pas que le général de Gaulle lui-même, il y a bien longtemps, encore en 1964, s'y était essayé, mais en vain. Donc, il faut, je crois, prendre le problème et le prendre très précautionneusement. Et il faut surtout avoir une ligne de conduite. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer les errements du marché d'échange, les sur- ou sous-évaluations des monnaies. Il faut, et c'est difficile, il faut malgré tout essayer d'avoir un plan et d'avoir des propositions. Et c'est là où, je dois dire, nous devons attendre nos responsables. Et la prochaine réunion du G20, même si, en ce qui concerne cet aspect, je suis peu optimiste sur les résultats concrets qu'on doit en attendre.
En attendant, vous ne ménagez pas votre sens de la pédagogie, et notamment auprès de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. J'imagine que vous leur avez passé ce message, par ailleurs, récemment.
Oui, bien sûr.
Vous avez été entendu, je crois, il y a un mois, quelque chose comme ça. Enfin.
Oui, je crois que c'était...
il y a peu de temps. Très peu de temps.
Ce n'était pas la Commission des finances, c'était une commission d'enquête diligentée par l'Assemblée, mais vous savez, avec toute la procédure un peu formaliste que cela représente. Et cette commission d'enquête, qui était pluripartie, bien entendu, voulait essayer de réfléchir à la spéculation et entendait des économistes, mais aussi des praticiens, notamment des banquiers. La personne qui me succédait, par exemple, était un banquier de la place, qui d'ailleurs est un peu mis en question dans le chapitre 2 de notre ouvrage.
Oui, les banquiers ne sont pas vraiment présentés comme étant les meilleurs acteurs dans la planète finance.
Je crois que les banquiers, sont absolument nécessaires, indispensables. Il n'y a pas d'économie performante sans une banque elle-même dynamique. Mais il faut, je crois, tenir compte de ce que les banquiers présentent souvent les problèmes un peu à leur avantage. Ils sont un peu trop souvent jugés partis. Et pour ma part, je suis de ceux qui proposent d'avoir la plus grande considération et pour ces banquiers dont je signale d'ailleurs plusieurs sont de mes amis.
Et de vos élèves même.
Et même de mes élèves, pour certains d'entre eux, oui, parmi ceux qui ont fait parler d'eux en bien au cours des dernières années et des derniers mois même. Mais il faut que la puissance publique, il faut que les gouvernements, les institutions européennes ou autres, il faut que ces institutions soient prudentes et interprètent la pensée des banquiers sans oublier que ceux-ci défendent, comme cela est tout à fait normal, d'abord leur propre fonds de commerce. Il faut, je pense, en particulier prendre des dispositions, non pas pour casser l'oligopole bancaire, parce qu'il y a en France une commission de la concurrence, mais je suggérerais, et je l'ai fait peut-être dans les instances que vous mentionniez tout à l'heure, je suggérerais que Par exemple, la commission de la concurrence s'occupa un peu de ce problème, justement, de la coordination de l'oligopole bancaire. Pour ma part, cette coordination en France est particulièrement forte, en particulier de par l'extraction qui est presque obligée, ou en tout cas qui est très majoritaire, des banquiers responsables aujourd'hui qui ont des qualités éminentes, mais qui viennent tous un peu de la même administration que vous connaissez.
Donc on voit que vous ne lâchez pas cet objectif. Donc, dernière question, enfin, ou l'une des dernières. Vous dites que, bien évidemment, les marchés financiers ont progressivement pris les commandes du système tout entier et en allant avec des conséquences qui sont extrêmement graves, puisque vous redoutez que, au lieu d'aller vers une stimulation pour la reprise, la politique de la plus extrême rigueur nous installe dans la déflation.
Le paradoxe, j'allais dire, aveuglant des dernières semaines ou des derniers mois, qui se manifeste donc pratiquement depuis la fin du printemps ou le début de l'été 2010, c'est cette sorte de fascination qu'ont été obligés d'admettre les hommes d'État pour le triple A. Ce triple A, bien sûr, il est essentiel puisqu'il nous permet d'emprunter à moindre coût, mais en même temps, il conduit les responsables de la politique économique à complaire, à chercher à complaire de façon un peu trop systématique à la banque. Et dès lors, on a vu au début de l'été 2010 un changement de pied extraordinaire. J'attire cette attention. Les historiens, dans l'avenir, auront à se pencher sur cette évolution qui, en quelques semaines, a fait que l'on est passé d'une action en faveur de la reprise présentée comme une ardente obligation évidente pour tous à une ardente obligation de la maîtrise de la dépense publique. Je ne dis pas qu'il ne faille pas maîtriser la dépense publique, mais on s'étonnera quand même que ce soit une agence de notation, aussi honorable soit-elle, qui amène un pays comme le nôtre, et cela est vrai pour nos voisins européens dans bien des cas, a changé complètement de cap. Et donc a donné peut-être de façon un peu trop excessive le pas à la rigueur sur la politique de relance. C'est un fine-tuning, c'est un réglage fin qui est nécessaire. Mais ce réglage fin, il ne faut pas qu'il soit opéré simplement sous le commandement des agences de notation ou du système financier. Donc c'est en cela que je vois un danger récent et un danger qui est, à mon sens, à prendre en considération avec le maximum d'attention.
Quand on n'est pas au diagnostic et vous faites des propositions, il y en a 5, nos auditeurs auront plaisir de le découvrir. Avant de conclure, je voudrais quand même que vous fassiez peut-être quelques remarques sur un point qui concerne l'éducation. Je crois que c'est d'ailleurs un de vos points central dans votre réflexion en disant qu'en fait tout commence par là et vous êtes assez critique sur les niveaux de la chaîne jusqu'à l'université. Vous dites, on en vient en France à passer plus de temps pour contrôler des connaissances que l'on acquiert dans des périodes de plus en plus courtes. Je crois que tout est résumé
dans cette
insertion.
Je ne suis pas sûr que ce propos me vaille des compliments de mes collègues, mais je crois qu'il faut avoir le courage de dire, d'essayer de parler vrai. Ce n'est pas toujours facile. Cela étant, je crois que le problème est général. Je crois que, sans doute, l'université a-t-elle bien des difficultés. Mais si je prends d'autres ordres d'enseignement, par exemple l'enseignement des grandes écoles, et en tant que parents et grands-parents, nous avons, mon épouse et moi, l'occasion de vérifier cela de près, même au niveau des grandes écoles, il y a encore beaucoup à faire, si vous voulez. J'ai dit effectivement ici que, en ce qui concerne l'université, les temps d'enseignement ne sont pas suffisants. C'est tout à fait exact. Les fameux semestres, puisqu'on parle de semestrialisation, se réduisent un peu trop systématiquement. Mais quand je regarde, par exemple, telle ou telle grande école que je connais bien, et que je vois que l'on passe quelquefois 3, 4, 5 semaines en début d'année, sinon un mois et demi à préparer le gala et à développer l'intégration. Vous savez ce que c'est cette intégration.
Ce qu'on appelle le bizutage dans le temps.
Voilà, le bizutage sur des bases qui sont pour le moins contestables. Je me demande s'il n'y a pas un problème quelque part. Je crois qu'il faudrait, à tous les niveaux de notre système d'enseignement, que l'on développât davantage le sens de l'effort et que l'on exigeât davantage, si vous voulez, et que l'on passât moins de temps à contrôler la connaissance et davantage à acquérir celle-ci.
Voilà, c'était donc le parler vrai qui est la ligne de conduite du professeur Bourguina, qui vient de faire paraître chez Maxima son dernier ouvrage avec Éric Brice, donc Marché de dupes, pourquoi la crise se prolonge, un ouvrage de 244 pages, 19,80 €, avec nos remerciements, monsieur le professeur, et le plaisir, bien sûr, de vous retrouver sur notre antenne. Encore bravo pour ce remarquable ouvrage.
Merci Jean-Louis Chambon et à tous ceux qui ont aidé à cette émission.
Merci à vous, professeur, et très bonne journée.